C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On poursuit la conversation sur la controverse dans laquelle s'est englué Guillaume Lemaitre-Vierge autour de cette vidéo avec le mot en N gravé sur un boulot. Donc, Pierre-Yves Laure et Mickey Guerrier sont là. Les gars, je vous ai posé la question avant de partir parce que c'est une question qui est souvent posée quand on tombe dans ce débat-là. Et écoutez, entre le moment où je vous l'ai posé et qu'on est revenu, il y a 10 autres personnes qui ont dit « oui, mais les Noirs, entre eux, utilisent le mot en N ».
Ben c'est ça, entre eux. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi. Puis il y a toute la connotation qui vient avec. Puis je la comprends, moi, cette question-là, je la trouve hyper légitime. Parce que je me suis déjà posé la question.
Au moins 20 fois, là.
Et c'est parfait parce que même dans les communautés noires, c'est pas unanime. Okay. Oprah a déjà eu des discussions avec des rappers sur son plateau. Elle s'est pognée avec des rappers.
Des humoristes aussi.
Des humoristes aussi qui expliquent qu'on se réapproprie le mot.
On et Oprah n'était pas d'accord.
Oprah n'était pas d'accord, puis je pense que si on lui posait encore la question aujourd'hui, elle serait pas d'accord, mais elle l'a accepté. Et dans la culture, entre autres, hip-hop, dans la culture afro-américaine surtout, c'est un mot qu'on se réapproprie souvent entre nous seulement. Mais il y a même des blagues, en fait, sur Internet, des mimes où des blancs et des noirs chantent une chanson. Et quand on arrive à ce mot-là, le noir regarde la personne blanche en disant « Vas-tu le chanter? Tu le chanteras pas. » Puis la personne blanche est comme « Tu, je ne la chante pas, je ne l'ai pas entendue. » Parce que tout le monde a compris la charge émotive qui vient avec. C'est-à-dire que si je te la lance comme mon frère, mon ami, mon chum, ou je te la lance comme une insulte, tu vas le savoir. Si je dis « Pat, toi, mon... » ou je dis « Toi, mon... » Tout le monde va comprendre. Mais c'est le même mot. C'est la même chose et la charge est différente. Puis, oubliez pas ce que Pierre-Yves a dit tantôt. La charge historique. Il y a des gens qui se sont fait traiter comme des animaux et même moins que des animaux à cause de ce mot-là. Alors.
Et même après les périodes d'esclavagisme, je veux dire, combien de fois dans ma vie, je sais pas, une simple bousculade ou une simple altercation avec quelqu'un à un feu rouge pour une histoire de stationnement. Tout d'un coup, on se pogne, on s'obstine et là, ça sort.
C'est ça le mot qui sort.
C'est ça le premier mot. Là. Puis je le vois des fois là, sur la bouche des gens là, à travers le pare-brise. Là, fait que c'est quand tu lances ce mot-là à quelqu'un, quand tu lances ce mot-là à une personne noire et que tu ne l'es pas, c'est pas pour la flatter dans le sens du poil, d'après moi. Il y a toute une charge raciste, à mon avis, qui vient avec.
J'ai question complémentaire là-dessus. Okay. L'utiliser dans le terme, dans le sens de l'expression « travailler comme un être », moi, j'ai entendu de mes grands-parents dire ça.
Aussi.
C'était l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça ne se dit plus.
Ouais. La mère de mon ex m'a déjà dit « Faites pas de plan de... »
Exactement, ça, c'est l'autre expression.
Les mères, ils disaient ça.
Hey, puis jusqu'à tout récemment, il y a des gens, des fois, qui, je veux dire, c'est une expression qu'ils disent depuis 40 ans, puis ils l'échappent, puis je veux dire...
Pierre-Yves, si t'as 75 ans, ça se peut que tu l'échappes.
Ouais.
Mais
ben
si t'en as 35,
écoute,
il y a
un dessert en gaspésien qui s'appelle des couilles de...
Ouais,
la première fois quand...
Mais je veux vous entendre, OK, par exemple. Des fois, le mot doit être utilisé. Si je parle du livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, je peux pas le mentionner. À ce moment-là, pour vous, est-ce que c'est acceptable de le dire? Parce que je peux pas dire les mots en N blanc d'Amérique.
Hey, la même chose encore dans ma propre famille, Pat. On n'est pas d'accord. Ma mère, ma tante, ils sont pas d'accord, puis ils ont à peu près 14 ans d'écart, tu sais. Ma tante est comme, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Ma mère est comme, je sais pas. Puis moi, de l'autre côté, je suis, est-ce vraiment nécessaire? Moi, c'est juste ça ma question. Est-ce vraiment nécessaire? Puis quand tu te bats pour absolument le prononcer, puis ça sert absolument à rien la conversation, combien de fois dans une année on parle de ce livre-là? On n'a pas vraiment besoin d'en parler.
Mais comprends-moi bien. Oui. Si tu inventes que c'est ton livre préféré, puis tu le dis à toutes les fois que tu es en public, tu as un problème.
Tu comprends? Le livre de Denis Laferrière.
Disons que tu enseignes le livre de Laferrière, mais disons que tu enseignes l'histoire du Québec moderne. C'est un livre qui a été important. Il va falloir que tu le nommes à un moment donné.
Oui, avec précaution. Apprendre, quelqu'un avait déjà dit, c'est comme manipuler un objet radioactif. Tu fais quoi? Tu mets des gants, tu mets un masque, tu mets un soute, tu préviens, tu mets des avertissements, puis après ça, tu le manipules. Même affaire. Tu le manipules comme ça, je vois pas pourquoi on te reprocherait. Mais il y a pas d'unanimité là-dessus. Puis c'est la beauté aussi, tu sais, de discuter.
Il y a vraiment aussi une discorde au sein des différentes communautés noires.
Exact.
Tu sais, c'est pas tout le monde qui est unanime sur cette façon de procéder ou pas. Fait que tu peux avoir 10 000 réponses différentes. Là.
Non, puis au-delà de ça, dans le cas qui nous concerne, là, c'était une blague de mauvais goût.
Absolument.
Une fois que t'as fait la blague de mauvais goût, assume.
Exact.
Ouais. Et je reviens à ça parce que là, le débat, il s'en va dans toutes les directions, puis c'est correct, puis c'est le fun parce que ça ouvre les discussions sur le racisme puis sur des propos racistes.
J'ai une question pour Pierre-Yves. Ouais. Hier, PY, j'étais dans le bain, puis tu m'as envoyé un message, puis tu m'as dit ça commence. Là, tu m'as envoyé une copie d'un message qui était très méchant à ton égard, avoir osé prendre la parole.
Exact. C'était un singe avec une pleure de banane sur la tête, genre « Tiens tes bananes, nanana. » Mais à partir de maintenant, il y a une grande partie... Ah oui, t'es comme eux autres, toi. OK, à partir de maintenant, sache qu'il y a une grande partie du Québec qui te déteste. Puis des messages du genre « On va te faire tomber, toi aussi. Tu sais, parfait, maintenant, on te check. »
Mais as-tu eu des messages d'appui?
Oui. Oui, beaucoup. Puis c'est pas un référendum sur cette personnalité-là, mais moi je me suis pas gêné de repartager les messages juste pour exposer, pour montrer que en prenant la parole sur des choses comme ça, il y a une deuxième vague qui vient avec, puis ça réveille un Québec qui me surprend toujours, qui existe, qui peut être extrêmement violent et qui est encore ancré dans des mœurs qui ne nous ressemblent pas. Fait que faut juste que tout le monde sache que ça existe, même quand on pense qu'on est dans un pays de Kalinours. Si ça se trouve, il y a des gens qui, en ce moment, sont fâchés qu'on tienne cette discussion-là et qu'on ait du temps d'antenne là-dessus.
T'sais. Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on dirige la conversation, parce que nous, on le vit d'un point de vue privilégié. On a le micro, on a des jobs qu'on aime, on parle, on a du fun dans nos jobs. Mais il y a du monde qui font pas des jobs comme nous, qui envoient des CV avec des noms qui sonnent pas comme Pierre-Yves Laure ou qui sonnent un peu plus étranger, puis pas nécessairement noir, là. Ça peut être arabe, asiatique, peu importe, tu viens d'Asie du Sud-Est, puis ces gens-là se retrouvent pénalisés. Fait qu'après, quand on parle justement de racisme systémique, de tous ces phénomènes-là, qui sont très subtils parfois, faut comprendre que quand t'as pas le pouvoir, ben, tu te fais ramasser par la machine des fois. Puis ça, c'est dur à vivre au quotidien.
Merci, Mickey. Merci, Pierre-Yves. Merci. C'est très intéressant et on va continuer la conversation brièvement après la pause, Catherine.
Je voulais juste dire aussi, tu sais, j'ai une pensée, parce qu'on a Mickey et puis ouais, mais tu sais, j'ai une pensée aussi pour Varda Etienne, oui, pour Anne Lovely. Tu sais, qui elle aussi, on fait des prises, toutes les deux ont fait des prises de parole et on reçu un sac de roche en
c'est
plein visage.
Femmes, hein? Et c'est encore pire, je pense, pour les femmes.
Oui, c'est vraiment plus difficile.
Tu fais bien de le dire, Catherine.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance, le CEAP de l'Université Concordia, lance une campagne de sensibilisation qui s'intitule « On s'écoute ». C'est à propos des violences sexuelles commises en milieu d'enseignement supérieur. Léa Clermont-Dion, autrice, documentariste, militante féministe bien connue et l'idéatrice de la campagne. Léa, salut!
Salut Patrick!
C'est quoi ça, On s'écoute?
On s'écoute, c'est une campagne de prévention des violences à caractère sexuel qui est lancée aujourd'hui dans toutes les écoles postsecondaires, donc cégep, université. C'est 4 vidéos de sensibilisation qui visent à démystifier différentes questions comme le consentement et l'alcool, le rapport d'autorité et le consentement en milieu d'enseignement supérieur. C'est un site web onsécoute.com avec toutes des ressources pour des personnes victimes qui voudraient, par exemple, trouver de l'aide dans leurs institutions. Donc, on a fait une carte interactive. Tout ça avec Sidley 288 Club Sexu. On lance une campagne sur les réseaux sociaux.
Pourquoi cibler les établissements d'enseignement supérieur?
Moi, je suis associée de recherche donc au CEAP, comme tu l'as souligné. Oui. Et on a été mandaté, en fait, par le ministère de l'Enseignement supérieur pour appliquer la loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, qui avait notamment dans son plan stratégique de faire un message commun, d'envoyer un message commun qui puisse parler à tous les établissements, parce qu'on avait besoin de rassembler les ressources. Il y a plein de ressources qui existent d'aide, mais on n'avait pas comme un point de chute entre institutions pour se référer. Donc, il y avait aussi ce besoin-là.
Qu'est-ce qui est particulier en milieu universitaire, puis on peut étendre ça au collégial aussi, qui est différent peut-être du reste de la société?
C'est une super bonne question. Premièrement, il y a une personne sur 3 qui va subir des violences à caractère sexuel dans les cégeps et universités et autres. 1 sur 3, c'est beaucoup. Mais il y a des contextes qui favorisent parfois des violences, comme par exemple les parties, l'alcool. La consommation d'alcool, ça revient souvent. Près de la moitié des violences à caractère sexuel se passent dans les milieux où il y a des parties ou qu'il y a de la consommation de l'alcool. Puis on s'était rendu compte que la notion de compréhension du consentement était floue. Concrètement, tu sais, les étudiants et étudiantes, c'est pas tout le monde qui sait, par exemple, que lorsqu'une personne a vraiment des facultés très affaiblies, qu'elle est plus là mentalement là, et qu'elle est, oui. elle est pas apte à donner son consentement. Donc là, ça devient une violence à caractère sexuel, une agression sexuelle s'il y a une relation, par exemple, puis qu'on peut pas demander le consentement. Ou même quand une personne dort, tu sais, dans un party, mm-hmm. une personne s'essaye, puis ben c'est pas acceptable. Donc il y a ça, mais il y a aussi le rapport d'autorité. Tu sais, on a tous l'idée du professeur qui a une relation avec une étudiante. Dans certains cas, il y a des abus de pouvoir qui peuvent advenir entre professeurs et étudiants et étudiantes. Donc, il y a ça là, qui est particulier à notre milieu.
L'alcool, c'est intéressant. Tu t'es beaucoup intéressé ces dernières années aux violences sexuelles. Toi-même, ouais, t'as dénoncé, t'es passé à travers un procès, ton agresseur a été condamné. T'as écrit le livre Porter plainte, le documentaire Je vous salue salope.
Oui.
L'alcool, il me semble, là, regarde, c'est un échantillon médiatique. Il y a beaucoup de cas médiatisés où il me semble que dans beaucoup de violences sexuelles, que ce soit des gens connus ou pas, il y a des gens complètement sous.
Ouais, mais tu sais, c'est pas une raison pour agresser.
Ça m'a frappé. Il y a quelques jours, j'ai vu des dénominateurs communs, je parlais avec des amis de quelques cas. Il y a toujours quelqu'un de bien, bien sous.
Puis il y a une prévalence peut-être finalement à ce qu'il y ait des actes qui sont commis dans ce contexte-là. Puis c'est vrai que tu fais bien de le spécifier. Mais après, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une espèce de déresponsabilisation de certaines personnes pour dire, ben vu que j'ai consommé beaucoup d'alcool, ça excuse les agressions que j'ai pu faire. Mais par contre, tu sais, par exemple, moi, si je suis saoule, puis très, très ivre, je suis dans mon auto, je conduis, puis je frappe quelqu'un, la personne meurt.
Personne ne va dire, elle était saoule.
Mais elle était saoule, tu sais. Puis des fois, on utilise aussi l'alcool pour dire, ouais, mais elle était saoule, donc elle a un peu provoqué la personne de l'agression. Donc, il y a aussi cette question-là des mythes et préjugés qu'on veut un peu combattre à notre manière. Mais l'important, là, Patrick, dans cette campagne-là, c'est on s'écoute. C'est positif, c'est inclusif. On trouve que cet enjeu-là, on veut pas être trop dans la culpabilisation hein, des gens. C'est-à-dire que on veut que les gens se responsabilisent, mais on veut inclure tout le monde dans la discussion. Donc, on s'écoute, c'est s'écouter pour comprendre ce que c'est le consentement, pour pouvoir respecter les autres et pouvoir agir aussi quand ça arrive.
On s'écoute, tu sais, c'est un thème qui est assez, je dirais, large, ouvert. Ouais. Tu l'as dit, on n'est pas dans la culpabilisation. Qu'est-ce qui vous a donné, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette approche-là?
Ben écoute, franchement, le nom m'est venu dans la douche, là, si tu veux savoir la non, réalité.
Okay, mais c'était
là.
Pas basé sur les 22 focus groups d'opinion.
Oui, c'est pas juste moi dans la douche qui a cette idée-là. C'est juste qu'après avoir consulté toutes les associations étudiantes du Québec puis un comité expert en violence à caractère sexuel dans le milieu d'enseignement supérieur, on a consulté beaucoup de gens, effectivement. Et il y avait, chez les étudiants et étudiantes, une volonté d'inclure un plus grand nombre. Puis ce qu'il nous disait, c'est que les campagnes avec des acteurs, actrices qui jouent un peu la victime ou l'agresseur, ça avait pas d'impact. Le message culpabilisateur dans le sens « ne fais pas ça, c'est mal », c'est pas la meilleure façon de s'adresser à tous. Okay. Donc, c'est pour ça. Et on a des vidéos, finalement, qui sont... Tu sais, moi, je suis de l'approche documentaire. Donc, on a des témoignages documentaires de victimes qui parlent puis qui nous parlent de l'impact dans leur vie.
Mais là, Clermont-Dion, il y a pas quelque chose d'un peu, comment je dirais, un peu décourageant parce que on arrive à l'université, on a généralement 19 ans. Il n'y a pas quelque chose d'un peu décourageant que ces messages-là, ces comportements-là, n'aient pas été abordés avant à l'école?
Ah, ben, tu sais, on s'en parle beaucoup, en fait, avec. Ben, moi, je fais beaucoup de conférences aussi ailleurs que dans mon emploi à Concordia, puis je rencontre plein de groupes et tout le monde me dit, hey, c'est quand le on s'écoute au primaire? Le on s'écoute au secondaire? Parce que oui, on lutte contre l'intimidation, mais d'aborder, en fait, le consentement sexuel dès la première année. Tu sais, moi, j'ai un fils de 5 ans et je lui parle déjà de cette question-là. Je pense qu'on peut l'aborder ouvertement de façon différente. Ça me semble important et je crois beaucoup à l'éducation et je crois que l'éducation passe par justement cette l'émotion, la sensibilité et c'est pas une fois au chalet qu'on discute de ça. Faut qu'on en parle de façon plus concrète, faut le voir à long terme et moi je veux souligner quelque chose de positif. Donc on a observé grâce à notamment la loi visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel, il y a d'abord une implantation de formation obligatoire dans toutes les écoles, universités, cégep sur le consentement sexuel. Aux employés, aux étudiants. À chaque année, c'est récurrent. Il faut se former et s'ouvrir à la question. Il y a aussi les guichets uniques d'harcèlement, les bureaux du harcèlement qui sont ouverts aux victimes. Donc, ça, tout le monde peut aller là, puis c'est positif. Et on remarque un peu l'impact de cette loi-là. Il y a eu 60 % d'augmentation en 2 ans des plaintes qui ont été faites au bureau du harcèlement. Donc, on voit qu'il y a quand même une utilité à ça. Puis moi, je voudrais aussi ajouter que, tu sais, j'ai beaucoup parlé du système de justice, puis des victimes d'agressions sexuelles qui portent plainte ou pas, puis comment des fois, c'est pas toujours adéquat. Bien, ça, là, ces mesures-là, puis ce service-là qui sont dans les universités puis les cégeps, c'est une alternative au système de justice. Si on a vécu une violence à caractère sexuel puis qu'on n'a pas envie de porter plainte aux criminels, ben on peut avoir des services d'accompagnement dans les universités. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est positif? Oui, puis ça, faut le noter. Moi, j'ai envie qu'on soit vers le positif puis qu'on travaille en ce sens-là.
OK, je veux rappeler que tu as fait le documentaire Je vous salue salope.
Oui.
Et c'est moi je me souviens de ce documentaire là, ça m'a hanté. Je savais que les femmes étaient beaucoup plus ciblées dans les espaces numériques par toutes sortes de commentaires de violence, de menaces sexuelles, mais avec Guylaine Marois, là, ta co-réalisatrice, là, vous en avez fait la démonstration, et pas juste ici, en Italie, un peu partout aux États-Unis, en France. Et là, j'ai vu une nouvelle en Grande-Bretagne.
Oui.
Quand on envoie, si on envoie une photo de son sexe qui n'est pas sollicité, qui n'est pas désiré, ben on peut aller en prison. Il y a le cas d'un Britannique là, qui a été condamné, je pense, à 18 mois de prison. Est-ce que...
Très intéressant, ce cas.
Quel regard tu poses là-dessus?
Ben, premièrement, ça m'a rappelé lors de mes 14 ans, quand on était sur MSN Messenger, les millennials savent de quoi je parle. On se faisait toujours envoyer des photos par des inconnus, des photos de pénis.
Je me rappelle, ça existait déjà à l'époque.
Ah oui, oui, je me rappelle, à 14 ans, c'était la norme, là, de se faire envoyer des photos de pénis d'inconnus. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que... Ah, sans, même si c'est sa propre partie intime, si c'est réprimé. Alors là, il y a comme une différence avec le Canada, parce que ici au Canada, on ne peut pas envoyer de photos de nudité sans le consentement d'une autre personne. Mais on peut envoyer, par exemple, un nude de soi-même à quelqu'un d'autre.
Oui. Mais ça, quand tout le monde est quand tout le monde est adulte consentant.
Mais je trouve ça intéressant en fait comme mesure, parce que c'est le côté exhibitionniste, l'impact que ça peut avoir, parce que moi je me rappelle de l'impact que ça avait sur moi, puis j'étais mal à l'aise. Ouais. Ben oui, ben c'est certain quand t'es adolescente puis que tu veux pas ça. Donc moi je trouve que c'est une réflexion intéressante, puis on peut se questionner ici à savoir si c'est pertinent.
Ici, est-ce que c'est criminalisé?
Non, ben c'est ça. Non. Ça peut être criminalisé indirectement. Par exemple, si c'est répété, ben là, on pourrait dire que c'est du harcèlement. Mais c'est vraiment quand c'est une photo d'autrui et que c'est partagé sans le consentement, ben là, ça, c'est criminel. Oui. C'est un partage d'une photo intime sans le consentement. C'est un crime. Donc, il y a peut-être d'autres façons de rendre ça finalement un crime, mais tu sais, c'est pas explicitement...
T'sais, c'est dans le code criminel, l'exhibitionnisme. C'est-à-dire
que c'est ça. Donc,
si
je pense
t'es
que
dans
tu
un
peux...
parc, t'ouvres ton imperméable classique, puis le gars est tout nu, ça, c'est tu peux être criminalisé. Le même gars qui envoie une photo de son appendice à un inconnu...
Ben, je suis pas une spécialiste du droit criminel, puis on s'entend que des avocats pourraient mieux répondre à cette question-là que moi, mais de ce que je comprends, c'est qu'il faut démontrer que c'était non désiré. Donc là, ça devient un petit peu plus flou. Par exemple, une fille
moi, je connais plein de filles qui reçoivent ça d'inconnus.
OK, oui, là, c'est peut-être plus clair à présenter l'exhibitionnisme, même si c'est numérique. Okay. Mais par exemple, si à un moment donné, tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, puis là, ça s'arrête, puis là, après ça, la personne t'envoie ça sans que tu le veuilles, puis c'est elle, pour la personne, c'est clair qu'elle le veut pas, mais là, c'est un petit peu plus flou. Donc, je pense que c'est variable, mais tu sais, il faut démontrer que c'était non désiré.
OK. Je reviens à la campagne nationale de CEAP en terminant, la campagne
On s'écoute.
Si les gens veulent en apprendre un peu plus, on se renseigne où?
onsécoute.com. Donc, comme je l'ai dit, des ressources pour les victimes, une carte interactive, et aussi pour les cégeps universités qui nous écoutent, qui veulent afficher l'identité visuelle magnifique faite par Sid Lee. Vous pouvez les afficher dans vos universités. On a un kit média pour vous. On a tout créé ce qu'il faut. On a des autocollants à imprimer, etc. Donc, c'est là. Et les vidéos qui peuvent être utilisées aussi dans des formations. Et finalement, important, on a une formation clé en main. Donc, faite avec 2 personnes étudiantes et que j'anime sur le consentement sexuelles qui peuvent être utilisées par, en fait, n'importe qui, dont, je dirais, des groupes sportifs dans les universités. Okay. Tu sais, les groupes... Ouais. De sportifs,
les
là,
groupes,
des fois.
Les groupes de gars, là.
D'ailleurs, l'année prochaine, je vous le dis tout de suite, notre en deux de la campagne sera sur la question du sport en milieu d'enseignement supérieur.
Merci, Léa Clermont-Dion. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a rendu public dimanche son nouveau tableau de bord. Hein. C'est populaire, les tableaux de bord truffés de statistiques au gouvernement. Monsieur Dubé à la santé en a un. Il souhaite aussi, jongle avec cette idée-là, celle de publier un palmarès des écoles, comme ça se fait déjà au Journal de Montréal, comme le magazine L'Actualité le faisait à une autre époque. Et je cite Monsieur Drainville, « L'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut. » On va poser la question à Kathleen Legault, présidente de l'Association Montréalaise des directions d'établissements scolaires. Est-ce que ça tire vraiment tout le monde vers le haut? Madame Legault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Est-ce que c'est une bonne idée, un palmarès des écoles?
Sans doute pas, parce que quand le ministre dit qu'il veut qu'on partage les bonnes pratiques, les bons coups, si on est d'accord avec ça, c'est rarement dans la compétition qu'on partage nos meilleures ressources.
Écoutez, là, je regarde ma messagerie, là. Chaque fois que je parle de ça, les gens me disent, oui, mais se comparer, c'est s'améliorer. Puis là, on me donne des exemples souvent qui sont issus du secteur privé où la comparaison fait en sorte que des organisations vont vouloir s'améliorer. Pourquoi ce serait pas pareil avec l'école?
Ben, en fait, je suis pas certaine, parce que déjà dans nos centres de services scolaires, on a déjà la possibilité de se comparer, de comparer nos façons de travailler. Là où peut-être les données nous amènent ailleurs, c'est la possibilité peut-être de travailler, et non pas de s'opposer, mais de travailler avec des gens d'autres centres de services scolaires pour voir un peu comment ils règlent des problèmes. Montréal, c'est un expert de l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, quand on est dans d'autres régions, on pourrait s'inspirer de ce qu'on met en place depuis des années à Montréal. C'est un exemple.
Oui. OK. Madame Legault, il y a déjà ce palmarès, on le dit, qui est basé sur certaines données, palmarès annuel du Journal de Montréal.
Mm-hmm.
Comment c'est reçu dans le milieu scolaire, ce palmarès-là?
Assez mal reçu, peut-être à cause du phénomène de l'école à trois vitesses. Vous savez, comment on peut comparer des choses qui ne se comparent pas? Une école qui choisit ses élèves versus une école qui est dans un quartier plus populaire où il y a peut-être beaucoup de gens dont la langue maternelle n'était pas le français. Donc, il y a des écoles qui ont des défis particuliers. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une école où on travaille moins bien. Ça ne veut pas dire que c'est une école où on n'a pas d'excellentes méthodes de travail, sauf qu'on a peut-être plus de défis.
Puis les parents, ils réagissent comment quand ils interagissent avec les directions d'école où ils souhaitent peut-être envoyer leurs enfants à la lumière de ce palmarès?
Bien, chaque parent veut le meilleur pour son enfant, puis ça, c'est bien normal. Puis dans le fond, l'idée, nous quand les parents en discutent avec nous, ben je pense que chaque parent doit connaître qu'est-ce qui motive son enfant à l'école. Parfois, ça va être le sport, parfois, ça va être les amis. Puis, il y a des avantages à étudier dans son quartier de proximité. Donc, chaque cas est différent. Puis le parent, s'informe, puis... C'est vrai que le palmarès donne une certaine information aux parents, mais le plus important, c'est comment on travaille avec le parent puis avec la communauté pour chacun de nos élèves.
Madame Legault, au fil des années, il y a beaucoup de profs, même des directions d'école, qui m'ont raconté, évidemment, sous le couvert de l'anonymat, là, qu'il y a une pression, souvent, pour baisser la barre, gonfler les notes, justement pour pas que la classe A ait l'air fou à côté de la classe B, et surtout que l'école C n'ait pas l'air en retard à côté de l'école voisine. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez?
En fait, je ne pense pas. Par contre...
Vous n'avez jamais vu ça?
En fait, il y a clairement une pression, je vous dirais, pour prendre des méthodes qui sont plus efficaces. Et ça, parfois, ça entre en contradiction avec l'autonomie des enseignants. Donc, nous, on a des pressions qui nous viennent d'en haut pour changer les façons de faire. Puis, les enseignants, ils ont des pressions qui leur disent de s'affirmer dans leur autonomie professionnelle. Et parfois, c'est là qu'il y a une rencontre. Mais, ultimement, effectivement, la recherche évolue, notre connaissance de l'apprentissage évolue, et je pense qu'on doit tous essayer de faire le mieux. Mais non, on ne devrait pas faire de pression pour des notes. Clairement pas.
On devrait pas, mais est-ce que ça se fait?
Ben, en fait, moi, je suis une directrice d'école. Moi, je n'ai jamais fait de pression à mon équipe. Est-ce que je peux pas parler pour toutes les directions du Québec?
Mais
évidemment pas.
Quand je vous dis ça, Mme Legault, c'est pas la première fois que vous entendez parler de ce phénomène-là.
En fait, j'ai déjà entendu que ça se serait produit dans certains milieux. Puis on se rappelle que l'ancien ministre avait quand même pris position par rapport à ça, le ministre Roberge. Alors j'espère que si ça a eu lieu, ça n'a plus lieu.
OK, vous êtes diplomate. Dites-moi, s'il y a un palmarès qu'on impose, là, qui devient le palmarès officiel du ministère de l'Éducation, avez-vous peur, justement, qu'il y ait une pression qui parte d'en haut, qui descendrait vers le bas? Les centres de services scolaires voudront pas être les derniers de classe. Ils risquent d'avoir une pression sur les profs pour qu'on améliore les notes.
En fait, peu importe les décisions qu'on prend, j'espère que l'élève va être au cœur de nos priorités. Puis en ce moment, notre plus grande priorité, là, c'est pas ça. C'est qu'il manque de monde pour faire l'école. C'est vraiment un problème grave. Puis je vous dirais que ça prend toute notre énergie. Faut qu'on ait des profs qualifiés. Et ça, on l'a pas actuellement. Vous savez, il en manque. Ça nous prend des professionnels dans nos écoles. Il en manque. Ça nous prend des éducateurs spécialisés. Je vous dirais là, que si au ministère puis le ministre veulent mettre de l'énergie quelque part, c'est ça qui doit être priorisé. C'est ça qui va nous aider à aider les élèves. C'est très, très clair.
Merci d'avoir pris le temps. Je souhaite une bonne journée, Mme Legault.
Merci beaucoup.
À la prochaine. C'était Kathleen Legault, présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est un texte à faire dresser les cheveux sur la tête qui a été publié par le Journal de Montréal aujourd'hui. Le journaliste François-David Rouleau a creusé une histoire de jeunes qui sont harcelés, qui sont intimidés, qui se font crier après, qui sont discriminés aussi parce qu'ils sont francophones par leur entraîneur. Tout ça se passe dans une équipe de Bantam A au hockey mineur de Vaudreuil-Dorion. François-David Rouleau, journaliste sportif au Journal de Montréal, est au bout du fil. François-David, salut!
Salut.
Peut-être nous raconter ce que l'entraîneur fait vivre à ses joueurs francophones, je le précise, ils sont sept. Il s'appelle Michel Galtieri.
Oui, mais tout à fait, tu l'as bien résumé, Patrick. On parle de faits allégués, là, c'est le récit de jeunes ados de 13-14 ans qui jouent Bantam A, donc les faits allégués, là, ça reste abus de pouvoir, harcèlement psychologique, crise de colère répétée, dénigrement, discrimination à l'endroit des francophones, et ce qui, moi aussi, m'a fait dresser le poil sur la tête et les bras, c'est dans l'abus de pouvoir, on met en place des règles de discipline injustifiées. À travers ça, il y a aussi des menaces, et il y a aussi, malheureusement, coup sur le casque d'un joueur. Donc, ce n'est pas très beau pour le hockey mineur ce matin.
François-David, le coach, on va revenir à la façon dont il cible les joueurs francophones, là. Mais je veux que tu expliques aux gens qui nous écoutent les règles absolument stupides que le coach Galtieri a imposées dans son vestiaire de Bantam A, faut le rappeler.
Ouais. En fait, ça va à des gestes aussi banals que de remplir une gourde d'eau, interdit à l'aréna, interdit dans le vestiaire. Enrubanner en bon franglais, taper son bâton de hockey, interdit dans le vestiaire. Faire aiguiser ses patins à l'aréna, interdit aussi. Maintenant, on regarde dans la façon de gérer une équipe. On me racontait bon des joueurs de hockey de tout azimut, là, on me disait, maintenant, on veut remplir une gourde, le joueur, est-ce qu'il va y aller 5 minutes avant le début du match ou il va y aller une demi-heure avant? C'est le gros bon sens qui devrait prévaloir dans une situation comme celle-là. Maintenant, on s'entend que c'est des gestes assez banaux. De dire, c'est la base de tout. Une gourde d'eau, taper son bâton, faire exister ses patins. Je veux dire, l'emploi du temps des parents est assez, est assez éparpillé. Maintenant, il faut commencer à courir dans les magasins à gauche, à droite. Pour eux, là, d'aller faire exister ses patins au préalable, ça peut devenir, problématique. Donc, on parle de règles, comme ça, là,
François-David, est-ce qu'il y a une explication logique pour interdire à tes joueurs de faire affûter leurs patins avant le match à l'aréna?
Ben, tant qu'à moi, non.
Mais lui, est-ce qu'il y en a une?
Ben, on ne sait pas, il n'a pas voulu nous parler. Donc,
c'est pas parce que t'as pas essayé.
Ah non, non, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé. Là, plusieurs appels, des messages vocaux. On s'est même rendu à la séance d'entraînement la semaine passée, mercredi soir. J'ai bien voulu lui tendre le micro, lui dire, là, faudrait qu'on se parle. Je vais avoir votre version des faits, pas un son. Et là, je l'ai suivi là pour essayer d'avoir, somme toute, une réponse, puis pas un son. Et je me demande même s'il a respiré une fois entre la porte du vestiaire puis la sortie de l'aréna.
Donc, très, très bon pour intimider des kids de 13-14 ans, mais quand un journaliste met un micro en dessous du nez, Michel Galtieri, il sauve comme un poulet.
Moi, je lui ai donné l'occasion de s'expliquer. Il l'a pas prise. Maintenant, c'est sûr que on aurait souhaité qu'il s'explique, qu'il livre sa version des faits. Il l'a pas fait.
Qu'est-ce que l'association de hockey mineur Vaudreuil-Dorion dit dans cette situation-là? Parce que, au vu des faits que tu as publiés dans le Journal de Montréal aujourd'hui, c'est quand même consternant de penser qu'il est encore en contact avec des jeunes.
Non seulement encore en contact, il était en contact pas plus tard qu'hier dans une séance d'entraînement, et demain il y a un match. Et là, aux dernières nouvelles, là, il est encore entraîneur-chef de cette équipe des Titans, Bantam A. Bon, l'association, le président de l'association était entre l'arbre et l'écorce, évidemment, devait répondre aux questions. Maintenant, il a pris connaissance d'une plainte déposée au bureau de l'officier des plaintes en matière d'intégrité dans les sports au Québec. Donc, il est allé se cacher derrière cette plainte-là pour dire, moi, je parle pas du cas précis des Titans, du cas précis de ces joueurs-là et du coach. Maintenant, je peux, en guise de transparence, puis je vais mettre le mot transparence en guillemets, je suis prêt à répondre aux questions qui concerne mon association. Évidemment, on avait des questions plus générales. Mm-hmm. On ramenait vers cette situation-là qui nous concernait, le dossier qu'on pilotait. Et là, c'est-à-dire, quand on arrivait avec des faits, des informations, puis on dit, maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Puis on se fait répondre, par exemple, que le coach avait été mis sur les lignes de côté pour des accusations, des faits reprochés semblables il y a quelques années. On dit, je ne peux pas aller là, j'ai peur de livrer l'information.
OK, François David, qu'est-ce que tu as appris sur ce qu'il avait fait, ce coach-là, Michel Galtieri, quand il coachait des jeunes de 8 ans?
De source sûre, on a appris que c'était le même modus operandi sur des jeunes de 8 ans, donc je pense que c'est du novice, crier, il avait une réputation de crier envers les enfants, donc il aurait été rencontré, puis il aurait dit, bon, on va, Michel, te demander de te retirer pour les prochaines fois. Et par la suite, l'année dernière, ils ont décidé de lui donner une seconde chance, de le mettre entraîneur adjoint. Ça s'est bien passé, on m'a dit. Mais là, en début de saison, les nouveaux dirigeants de l'association ont décidé de lui réattribuer une équipe. Et là, bon, en situation d'autorité, en situation de pouvoir, ben, selon les faits racontés par les adolescents, il aurait répété son schéma d'il y a 5 ans.
François David, les 7 joueurs qui sont ciblés par le coach Galtieri, ce sont des francophones. Est-ce que c'est un hasard? Oui.
Est-ce que c'est un hasard? C'est une bonne question. Les intentions, c'est sûr que c'est très mal vu. Il n'a pas voulu s'expliquer. Maintenant, on me racontait que ses entraînements, il les fait autant en français qu'en anglais, qu'il s'adresse aux joueurs autant dans les deux langues. Faut comprendre aussi que Vaudreuil-Dorion est situé dans l'ouest de Montréal. On a cette réalité-là, anglophone, francophone, allophone. Maintenant, qu'on vise directement les jeunes pour les visser sur le banc pour être beaucoup plus sévères envers eux, pour leur attribuer les insuccès de l'équipe. Maintenant, je me dis, si c'est seulement envers eux, il y aurait un sérieux problème.
Est-ce que tu as eu des réactions aujourd'hui à la publication de ton texte?
Plusieurs.
De quelle nature?
Positif dans le sens où les gens exigent des changements, exigent de nettoyer l'association, de faire la lumière sur tout ça. Il y en a qui souhaitent que que le coach soit relevé de ses fonctions. À l'autre extrême, on reçoit des messages à l'effet que tout est beau avec ce coach-là, puis que il y a pas lieu de le mettre sur la sellette comme ça. Ceci dit, on est allé poser des questions à énormément de monde. C'est fou le lot d'informations qu'on a dans ce dossier-là. On a un expert qui s'est prononcé en généralité sur la façon d'entraîner.
Oui.
Puis bon, c'est ça, on se demande quand moi j'ai posé des questions à l'association, puis qu'on me raconte que c'est important de protéger les bénévoles et les jeunes. Moi, je mets un gros point d'interrogation au bout de la ligne parce que je me dis, est-ce que dans le cas présent, on protège le bénévole, le coach, ou on protège les jeunes? Bon, à poser la question, c'est d'y répondre. Puis, c'est sûr qu'un bénévole là, qui donne de son temps pour entraîner des jeunes, que ce soit entraîner, gérer une association, ben ça vient pas avec une immunité. Ça vient aussi avec des responsabilités comme n'importe quel autre coach dans n'importe quel sport à travers le Québec, à travers le monde.
François-David, merci d'avoir raconté tout ça à nos auditeurs. Si les gens veulent plus de détails, plongés dans, disons, la bêtise que tu as explorée, là, qui concerne le hockey mineur à Vaudreuil-Dorion, ben, ils peuvent lire ton texte dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, au revoir.
À la prochaine. François-David Rouleau, journaliste au Journal de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.